Bienvenue sur Radio RKS 97FM ou Radio RKS.fr et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre radio locale et participative qui va consacrer à ce que vos animateurs aillent à la rencontre des acteurs de l'action solidaire et sociale sur Grenoble et sa région. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans le quartier Saint-Bruno, le quartier Nicolas Chaurier, afin de venir à la rencontre du SAMU social de Grenoble, autrement appelé le Vinci. Ils nous ont accueillis gentiment cet après-midi pour répondre à nos questions et présenter un peu leurs activités. Je suis avec, autour de la table, Éric Roncourt. Bonjour Éric.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Avec plaisir. Je suis avec Mathéo Minard. Bonjour Mathéo. Bonjour. Et avec Claire Hitzel. Bonjour Claire.
Bonjour à tous.
Très bien. Est-ce que vous allez bien cet après-midi? Un peu tendu. Et pour animer cette interview avec moi cet après-midi, je suis avec Ania. Salut Ania.
Salut.
Ça va?
Bah oui, toujours.
D'attaque?
Toujours d'attaque.
Très bien. On remercie Kétil également qui est à la réalisation et à la technique avec nous. Un mot?
Toujours d'attaque, toujours.
Toujours d'attaque, très bien. Allez, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vais laisser mes intervenants tout d'abord se présenter. Éric, qui êtes-vous?
Alors, je suis rentré au SAMU social il y a un peu plus de 5 ans. Après, je suis devenu tuteur. Donc, tuteur, c'est les responsables d'équipe chez nous. Et après, je suis rentré au bureau il y a 3 ans. Il y a 4 ans. Non, 3 ans. 3 ans, 3 ans. Et je suis devenu président depuis un peu plus de 2 ans.
Très bien. Monsieur le Président, alors. Mathéo.
Moi, je suis étudiant à Grenoble depuis l'année dernière. Mm-hmm. Et donc, j'ai connu le Vinci juste après mon arrivée à Grenoble. Et donc, je suis rentré au bureau à la rentrée de cette année.
D'accord, donc très récent pour le coup. Très bien. Et Claire, qui êtes-vous, Claire?
Alors, je suis rentrée dans l'association il y a 5 ans et je suis au bureau de la 3e année, là.
3e année, ouais. D'accord, très bien. Parfait, voilà, bah c'était pour présenter un petit peu nos intervenants et qui est autour de la table. Donc des gens bien placés pour nous parler du SAMU social. Vinci, qu'est-ce qu'on doit dire d'ailleurs? On dit les deux? On dit il y a une préférence? Comment?
En général, on est désigné sous le terme le Vinci.
Le Vinci, ouais. Qui signifie?
Véhicule d'intervention contre l'indifférence.
Voilà. Alors, je ne vais rien vous cacher. Moi, j'ai été bénévole pour des maraudes il y a des années de ça. Et j'ignorais complètement que Vinci voulait dire ça, pour le coup. Je l'apprends en même temps que vous, comme quoi, hein, on n'est jamais trop vieux pour apprendre. Parfait. Du coup, on connaît un peu vos qualités. Est-ce que vous pourriez, je vais m'adresser à Monsieur le Président, du coup, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'existence du Vinci, du SAMU social de Grenoble, nous faire un petit peu un historique du Vinci, de quand est-ce que ça date et quels sont ses champs d'action?
Alors, l'association a été créée en 1990, ça a été la date au mois d'octobre, date de la première maraude. Donc, elle a toujours été active depuis cette époque-là. Dernièrement, les choses ont beaucoup évolué dans la rue. Donc, on est vraiment dans de l'allée vert, en fait. Par rapport aux gens qui sont principalement non logés. Voilà, on suit quand même des gens qui sont logés, mais qui sont vraiment dans une grande précarité, des mal logés, des gens laissés pour compte, entre guillemets. Et c'est vrai que, du coup, on a une activité ininterrompue 7 sur 7, toute l'année. On est une association 100% bénévole.
Oui.
Voilà, pas de salariés. Et puis, on essaye de suivre les gens de la rue, donc on voit à travers les maraudes, du mieux qu'on peut. Parce que c'est vrai qu'étant donné qu'on est des bénévoles, on ne peut pas suivre les gens en journée. Voilà, et on le fait par l'intermédiaire du 115, auquel on fait des remontées. Mmh. Également des remontées au CCAS, à la métro, s'il y a besoin. Donc on essaye quand même d'apporter une réponse globale. En fait, en plus de l'aide alimentaire ou vestimentaire, qui reste quand même une aide d'urgence.
Oui. D'accord. Mais c'est très bien parce que là, vous avez donné plein de termes qui parleront pas forcément à tout le monde parce qu'on a parlé du 115, alors qu'on va vous marteler pendant une heure, on vous prévient. Oui. Parce que c'est très important, le 115. Vous avez parlé de CCAS, vous avez parlé de maraude. La première des choses, parce que ça reste une des activités, l'activité principale même du Vinci, c'est la maraude. Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est une maraude? De quoi on parle?
Alors, en fait, on parle du fait d'aller vers les gens.
Ce que vous disiez, ouais.
Voilà. Et les gens, donc, dans un but de sécurité, et puis pour que la voiture ne se transforme pas en standard téléphonique, on passe par le 115 automatiquement. Mmh. Le 115, donc, nous donne une liste d'appels, en fait, avec les coordonnées des gens, les lieux où on peut les trouver. Quand on se déplace sur place, quand on va sur place, on prévient les gens qu'on arrive. comme ça, c'est éventuellement s'il y a un changement de lieu ou autre, on ne fait pas de la route pour rien. Et puis à ce moment-là, ben, on regarde le problème, les besoins, etc. Et puis on agit au mieux en fonction de ça.
Voilà, donc la maraude, c'est ça. C'est, pour grossir un peu le trait, c'est dans un véhicule, plusieurs bénévoles qui vont sur signalement du 115. Donc le 115 qui est le numéro d'urgence du SAMU social, qui est un numéro national, si je ne dis pas de bêtises, et qui est un standard téléphonique qui prend les appels, donc les signalements pour beaucoup, c'est-à-dire de n'importe quel quidam qui peuvent signaler. Là, j'ai vu un groupe ou j'ai vu une personne qui a l'air isolée, mal en point, qui va se réorienter vers vous, si je dis pas de bêtises, hein, pour que vous alliez les voir en véhicule et puis vous situer l'urgence, c'est bien ça, je me trompe pas?
Alors, le 115 n'est pas une entité SAMU sociale.
Non, bien sûr, pardon. Ouais.
Donc le 115 est vraiment un organisme qui centralise les appels, les demandes, qui gère l'hébergement d'urgence.
Bien sûr.
Et tout ce qui tourne autour, en fait.
D'accord, très bien. Parfait. Anya, une question?
Pas pour l'instant.
Très bien.
Tout avec attention.
Claire, oui, allez-y, bien sûr.
Je voulais dire aussi, s'il y avait des gens, des particuliers qui voyaient une situation d'une personne, ils peuvent aller sur notre site.
D'accord, oui, c'est important.
Onglet contact, ils peuvent nous signaler. Après, on a...
D'accord, ah, mais c'est important de le... Ouais, ouais.
Qui peut, après, donner cette information à la maraude du soir. Voilà.
D'accord, ouais, non, bah, c'est important de le dire. En fait.
On peut signaler directement sur le site.
Directement sur le site.
Et après, une personne bénévole va relayer à la maraude.
D'accord, très bien. Okay.
Pour éviter les coups de téléphone directement à la voiture.
Oui, bien sûr. Voilà.
Puis la journée, des fois, une personne peut repérer quelqu'un qui le voit régulièrement et...
Voilà. Oui, parce que c'est vrai que techniquement, du coup, vous parliez d'intervention de nuit, parce que bah, les bénévoles, comme ils sont bénévoles, bah, ils travaillent la journée, ils font autre chose, donc c'est des maraudes nocturnes pour le coup. Voilà, il peut quand même y avoir des signalements en journée sur lesquels va intervenir le Vinci ensuite pendant sa maraude nocturne.
Et éventuellement, on peut également avoir des appels en direct du CHU ou de la police.
D'accord.
Voilà, mais c'est vrai que les appels en direct, on évite de prendre des appels d'usagers. Sinon, on n'a pas envie qu'il y ait une prolifération du nombre d'appels.
Bien sûr. Très bien. Du coup, le Vinci, c'est une association. Elle est reconnue d'utilité publique.
D'intérêt général.
D'intérêt général, oui, je n'ai pas le bon terme. D'intérêt général. Non, mais vous faites bien de me corriger, du coup. Oui. Du coup, c'est quoi les conditions pour être reconnue comme telle?
Je le savais.
Non, bah alors je vais formuler la question autrement. Qu'est-ce que ça permet en plus que pour une association qui ne serait pas reconnue d'intérêt général, du coup?
Alors, au niveau des dons qu'on reçoit, on peut faire des reçus fiscaux.
Déjà. D'accord, oui. Pour, c'est important,
dons, ça.
Ça
facilite énormément. C'est le principal avantage, en fait.
Oui, d'accord, c'est ça. Ok, très bien. Du coup, on a défini ce qu'était la maraude, qui reste le cœur de métier, si j'ose dire, du Vinci et du SAMU social. Du coup, ben, je vais, à titre individuel, chacun à votre tour, vous allez m'expliquer un petit peu quel est votre rôle, du coup. Alors, j'ai donné la parole en premier à Monsieur le Président. On va commencer par, tous membres du bureau qu'ils sont, par nos amis Claire et Mathéo. Honneur aux dames. Claire, comment ça se passe pour vous, du coup, dans le Vinci? Quelle est votre activité? Qu'est-ce que vous y faites?
Principalement, suivant mon emploi du temps, parce que je suis salarié la semaine, des maraudes. Et bah, en tant que membre du bureau, on fait au moins en moyenne une à deux réunions par mois.
Ouais.
Je participe à la logistique comme je peux, de l'association. Donc les réunions, la logistique.
Il y a un peu tout dans ton champ d'action. Il y a aussi l'organisation même de l'association. Il y a la surveillance quand même au niveau des bénévoles. On a été obligé de mettre en place une surveillance un peu plus accrue due à la crise sanitaire.
Oui, bien sûr.
Donc il y a vraiment toute une surveillance. Puis là, on n'est plus sur un fonctionnement normal. D'habitude, on tourne à trois. Là, on a été obligé de tourner à deux.
Et
pas avec des nouveaux bénévoles, en fait.
Parce d'accord.
Que c'est assez contraignant pour les tuteurs. Donc il y a toute une surveillance à avoir, tout un suivi. Et Claire participe quand même pas mal là-dessus.
On est une association de 100% bénévoles.
Oui, ce que vous disiez tout à l'heure.
On tient, avec les tuteurs, membres du bureau, les gens de l'association, de mettre un cadre. C'est-à-dire qu'on ne va pas en maraude et on fait ce qu'on veut. Voilà. Mais ce n'est pas sévère, mais chaque équipe de maraude vont...
Principe de précaution.
Chaque équipe de maraude vont organiser leur maraude, faire les interventions, commencer comme ils veulent. Mais il y a quand même un cadre à tenir aussi. Voilà, on n'est pas... instituteurs, les équipes ne sont pas mises comme ça.
Oui, parce que enfin, c'est aussi que vous ne vous mettiez pas vous-même en danger, hein, que, voilà, que ce soit par risque physique quelconque, mais aussi dans la situation actuelle. Bah, risquer une contamination quelconque ou de enfin voilà, il faut, j'imagine que c'est un principe de précaution de toute façon qui est contraignant mais nécessaire de comme dans beaucoup d'activités de toute manière.
On tient que les usagers, il y a un respect envers les, pas de jugement, et un respect envers les usagers.
Bien sûr.
On fait attention que les bénévoles n'ont pas trop d'empathie parce que après une maraude des fois ça cogite pendant 3 semaines, donc là on est en train de revoir pour des formations qui a fait des pratiques.
Ben en fait, on s'adapte en mettant par exemple un système en place là, de parrain-marraine qui sont
d'accord.
Les bénévoles.
Ouais.
Oui. Notamment.
On a été obligé de faire des évolutions en fait, sur le suivi des bénévoles, tout simplement, déjà dans le premier temps. Mmh. Et puis après, on a adapté aussi complètement les maraudes. Mmh. On a mis en place des protocoles, protocoles sanitaires en fait.
Hein. Ouais, bien sûr.
Donc,
ouais.
Éloignement, etc. Quoi.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Voilà, ça ne veut pas dire 100% bénévoles et tout le monde fait ce qu'il veut. Enfin. On a envie que les bénévoles soient bien dans l'association et le droit de donner leur avis,
bien sûr.
Beaucoup de discussions. Là, les réunions, on ne peut pas trop en faire, mais impliquer tous les bénévoles, comme ils peuvent aussi. Hein. Mm. Ça, c'est important. Et surtout le respect des usagers. Et puis, voilà, qu'on n'est pas les sauveurs du monde aussi. Ça, c'est dur à expliquer aux bénévoles.
Alors j'imagine, de mon expérience d'éducateur spécialisé, le syndrome du chevalier blanc, malheureusement.
Et en fait, on ne sert pas dans la longueur quand on est ce syndrome-là.
Non mais c'est un message important pour des auditeurs que ça pourrait peut-être intéresser de venir vous démarcher pour vous demander si vous avez besoin d'un coup de main en termes de bénévoles, en tout cas de pas partir dans l'idée que ça va être sauver le monde, que de participer aux maraudes ou à la vie de l'association au sens plus large, hein, c'est quelque chose qui est très très important, et d'ailleurs je compte sur vous pour le rappeler puisque vous le vivez quand même au quotidien. Merci beaucoup Claire en tout cas pour ces éclaircissements. Mathéo, du coup.
Et moi, concernant mon expérience, parce que bon, je suis un peu plus récent que Claire et Eric, quand je suis rentré dans l'association, j'ai senti que voilà, il y avait déjà on a été très très bien accueillis, les réunions d'accueil pour les nouveaux bénévoles sont très bien faites, avec un partage d'expérience qui est vraiment bien fait. Et aussi, ce que j'ai aussi apprécié et ce que j'apprécie encore aujourd'hui, c'est que c'est très flexible en fait, c'est-à-dire que les bénévoles s'investissent quand ils ont le temps et ce qu'ils aiment faire en fait, et s'ils peuvent le faire aussi. Et c'est ça que j'ai apprécié. Donc jusqu'à maintenant, j'ai fait pas mal de maraudes. Mm-hmm. Et puis après, on va sûrement y revenir après, pendant le confinement, un peu plus de distribution alimentaire.
Oui, bien sûr.
Et donc après, quand Eric m'a proposé de rentrer au bureau, je me suis dit pourquoi pas pouvoir avoir aussi une autre vision de l'association, pouvoir peut-être plus réfléchir et s'investir autrement. Mais voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de pouvoir faire plein de choses différentes en fait, pas que des maraudes en fait, si on veut s'investir autrement, par exemple aller chercher aider pour récupérer une commande de course ou à la banque alimentaire.
Bien sûr.
Mais du coup, voilà, c'est ce que j'ai aussi apprécié.
Grosse partie logistique, quoi. Voilà. Le SAMU social, ce ne sont pas que des maraudes. Mais d'ailleurs, merci Mathéo, du coup. Je me tourne vers Monsieur le Président. En tant que président, du coup, c'est quoi, président du SAMU social, président du Vinci? Qu'est-ce que ça implique?
C'est littéralement un travail non payé.
J'imagine, ouais.
Extrêmement chronophage, en fait. Extrêmement chronophage. Beaucoup de réunions. Beaucoup de contacts avec l'extérieur, toujours être là à expliquer en fait où on en est, ce qu'on fait, etc. C'est aussi beaucoup de décisions à prendre. Voilà. Bon, encore on a la chance d'être un bureau là qui avance vraiment bien. Ouais. Voilà, on n'a pas de perte de temps en fait en discussion vaine, et on arrive toujours à trouver des solutions.
Ce qui est plutôt une bonne chose. C'est quand même une bonne chose. C'est suffisamment rare pour être noté. Et du coup, en tant que président, j'imagine que ça amène beaucoup de dialogue avec d'autres acteurs de la vie solidaire et sociale sur Grenoble. Du coup, quels sont ces acteurs? Quelles sont vos missions de dialogue avec ces autres organismes?
Alors, on intervient sur le comité de veille, notamment. qui se passe à la DDCS.
Ouais. Donc, on va définir tout ça.
La DDCS, ouais. C'est la Direction départementale de la cohésion sociale.
Très bien.
C'est anciennement la DAS.
Ouais.
Oui.
Donc c'est en fait c'est l'organisme qui donne des subventions aux associations et qui gère en fait tout ce qui est hébergement d'urgence, précarité.
D'accord.
Voilà. Donc c'est entre guillemets les donneurs d'ordre.
D'accord.
Et les donneurs d'argent.
L'un va souvent avec l'autre.
Voilà. Donc, dans le comité de veille, il y a à peu près 30 ou 35 associations, institutions, organismes qui sont représentés. Donc là, on travaille beaucoup en fait, sur tous les problèmes liés à l'urgence. Hébergement, alimentaire, hygiène, tous les problèmes que rencontrent les associations. À côté de ça, on participe également au DM115. Donc c'est une réunion qui a lieu une fois par mois avec le 115 et avec les accueils de jour, les
pauses,
tout ça. Là, dernièrement, vu la crise sanitaire et vu ce qui se passe sur le terrain, le format du DM115 a été changé. Et un mois sur deux, en fait, il est exclusivement consacré aux maraudes.
D'accord.
Que ce soit les maraudes Croix-Rouge, nous, Femmes SDF, la métro. Donc ça permet en fait d'avancer sur des problèmes spécifiques liés aux rencontres directement avec les usagers.
D'accord. Ouais, donc c'est...
Et à côté de ça, on est aussi dans un collectif des associations bénévoles luttant contre la précarité, donc qui regroupe à l'heure actuelle, je crois, 18 associations, où là on évoque les problèmes qu'on a en interne et on essaie de trouver des solutions de façon collective. Il y a eu une action qui a été mise en place par le collectif là depuis 3 ans, c'est la soupe du soir, qui consiste à donner un repas chaud chaque jour de la semaine pendant toute la période hivernale sur la base d'une soupe, alors très souvent faite maison d'ailleurs, un sandwich et un dessert. Voilà, un repas complet qui peut contenir.
D'accord.
Donc on a quand même des actions collectives et on se rencontre et on n'hésite pas à communiquer, quoi. Et si on a besoin de quelque chose, on n'hésite pas à en parler aux associations partenaires.
D'accord, alors ça fait un peu chaud au cœur, une fédération telle autour d'un tel sujet. En tout cas, c'est important de le souligner que bah, du coup, bon, bah, il y a le Vinci, mais vous n'êtes pas les seuls hein, à faire de la maraude et à œuvrer dans les champs qui sont les vôtres. Mais du coup, voilà, il y a une vraie fédération, des vraies rencontres qui se font entre tous ces acteurs-là, qui chacun à leur niveau vont faire différentes choses, mais qui en tout cas œuvrent dans le même sens au final. Donc voilà, ça existe, il y a cette cohésion-là qui existe, ce qui est plutôt intéressant dans ce champ d'action, bien évidemment. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué concernant le Vinci, c'est combien de bénévoles est-ce que ça représente à l'heure actuelle, le Vinci ?
Alors, en moyenne, on est entre 120 à 140 bénévoles.
Ah ouais, ça fait beaucoup de monde quand même, 120, 140. Et du coup, vous arrivez à toujours remplir les maraudes, pour parler spécifiquement des maraudes, les maraudes sont toujours remplies, même si aujourd'hui, bon, bah, du coup, elles sont limitées à deux, d'après ce que j'ai compris. Il y a toujours quelqu'un de disponible, 7 jours sur 7, 365 jours par an.
Alors, il y a eu une année où on a eu une seule maraude d'annulée de toute l'année, et elle avait été annulée à cause de notre Assemblée Générale.
D'accord, voilà. Ok.
Après,
ah oui.
Cette année, avec la crise du Covid, ça a été différent parce qu'on a été obligé d'alterner en fait des maraudes et des distributions alimentaires au mois de mars. On a été en distribution alimentaire jusqu'au 31 mai.
D'accord.
Donc là, on ne pouvait pas tout assumer en fait. On ne pouvait pas assumer et les maraudes et la distribution alimentaire. D'autant que sur la distribution alimentaire, on a servi entre 140 à 200 personnes par service. Donc là, on était obligé d'être une équipe de à peu près 7 bénévoles.
D'accord.
Donc voilà, mobiliser du monde, beaucoup plus de monde sur les distributeurs alimentaires. On ne pouvait pas tout assumer, on en était conscient. Du coup, on a eu des maraudes d'annuler à ce moment-là. Et puis, avec le déconfinement, etc., donc on a eu quelques maraudes d'annuler de façon sporadique. Mais là, ça va. On est retourné sur un fonctionnement normal.
Là, d'accord. Ouais, malgré ce nouveau confinement, hein, qui là, à l'heure actuelle, à la date d'aujourd'hui, a un petit peu moins d'une semaine, hein, ce nouveau confinement partiel, là, ça n'a pas à nouveau compliqué votre mode de fonctionnement, du coup. Là, vous restez assez...
Oui. Ouais. Et puis, de toute façon, enfin, avec des conditions sanitaires comme en ce moment, Grenoble n'est même plus en rouge. Hein, Grenoble est en violet.
D'accord.
Donc, on prend vraiment des précautions.
Ouais,
le fait d'être sur un véhicule à 3 personnes, on a jugé que c'était trop.
Ouais.
Du coup, on est descendu à 2 bénévoles.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Et résultat des courses, on n'a aucun problème au niveau nombre de bénévoles.
Très bien, très bien, très bien. Anya, est-ce que tu as quelque chose à dire?
En fait, je compare moi et mon expérience, mais je me dis qu'avec autant de bénévoles, avec les conditions qui changent, votre travail en termes de bureau, en termes de logistique, d'organisation, il y a l'accueil des nouveaux, enfin, c'est énorme comme investissement, en fait. Encore une fois, en termes, vous êtes tous des bénévoles, vous le faites sur votre temps libre à côté de votre travail, et je pense qu'il y a une énorme charge à ce niveau-là, non ?
Tout à fait. On a été obligés d'ailleurs de calmer un peu le tir, entre guillemets, quoi, parce qu'à un moment, c'était trop, on était tous épuisés, à la fin du confinement, on a vraiment voulu arrêter au 31 mai, on n'en pouvait plus, moi j'étais sur les rotules, Claire était sur les rotules aussi, on avait quand même quelques bénévoles qui vraiment avaient beaucoup donné, Et du coup, à un moment, il fallait aussi que les autres associations qui s'étaient mises à l'arrêt embrayent à nouveau.
Oui.
Et c'est chose qui a été faite, heureusement.
D'accord. Heureusement. Oui, de ce côté-là, il y a eu une cohésion dans la reprise un petit peu en déconfinement, quoi, au 31 mai, du coup.
Oui, puis il fallait, c'était plus une question de choix, il y avait tellement une demande.
Ouais.
Quand on est arrivé à 200 personnes sur les distributions alimentaires.
C'est énorme, oui, c'est vraiment.
En termes de logistique, oui.
J'imagine que ça doit
être. Quand on distribue 200 boîtes de salade à chaque service. Je veux dire, faut avoir le stock.
Oui, ouais.
Oui.
Bien sûr. Autre chose, Anya ?
Pas pour l'instant.
On parle de la situation sanitaire là depuis quelques minutes maintenant, parce que de toute façon ça a eu un impact sur absolument tous les volets de la vie, hein, qu'ils soient personnels, professionnels, culturels et solidaires et sociaux également, hein, ça n'a pas échappé à la règle. Quels sont aujourd'hui, vous avez évoqué tout à l'heure aussi cette fameuse période hivernale qui a commencé, du coup, c'est quoi la date officielle du début de cette période grand froid, là, comme ils appellent ça.
C'était 1er novembre.
C'est 1er novembre, donc ça a à peine quelques jours, puisqu'on est le 3 ou le 4, je crois, quelque chose comme le 3 novembre. Donc ça fait deux jours qu'on est officiellement en période. Ça s'appelle toujours période grand froid. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité cette appellation.
On appelle ça le plan hivernal.
Le plan hivernal, tout simplement, d'accord. Et qui va courir jusqu'à fin mars. Ça dure quelque chose comme 5-6 mois, je ne dis pas de bêtises. Du coup, là, on est dans une période un petit peu, j'imagine, un peu critique pour vous, parce qu'on est à la fois dans le retour confinement partiel, toujours dans pleine crise sanitaire, on est sur ce plan hivernal, etc. Quels sont les enjeux pour une association comme la vôtre à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper? Qu'est-ce que ça donne comme défi supplémentaire là, toutes ces contraintes actuellement?
Pour nous, ça ne nous a pas vraiment... Enfin, c'est pas que ça crée des difficultés, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de fonds qui ont été débloqués là. Que ce soit en chèque service qui nous ont permis d'acheter de l'alimentaire et de l'hygiène, ou alors même en subvention propre. Et résultat des courses, en termes de matériel, d'achat, en fait, ça nous a vraiment facilité la chose. Après, ce qui nous cause plus problème, c'est le stockage.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Il y avait une date limite sur les chèques service, donc on a été obligé d'acheter de suite.
D'accord.
Et c'est vrai qu'après, on a peut-être plus de difficultés, en fait, à avoir un fonctionnement normal dû à la crise Covid et à suivre correctement les bénévoles, histoire qu'ils ne prennent pas de risques, justement.
D'accord.
C'est peut-être plus là-dessus qu'on a des difficultés.
Je vais me tourner vers nos amis bénévoles. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous, en tant que maraudeur, ça se dit maraudeur, hein? On peut dire maraudeur? J'adore ce mot maraudeur, j'aime beaucoup. Comment?
Ça fait un peu Moyen-Âge.
Ouais, mais je sais pas, il y a un côté un peu noble malgré tout dans le maraudeur, j'aime bien. Du coup, Claire ou Mathéo, si vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet. Mathéo, allez.
Oui, je dirais que au niveau des enjeux en ce moment, oui, c'est au niveau de tous les protocoles, il y a aussi l'enjeu de est-ce que tout le monde va le respecter correctement? Est-ce que...
Oui, bien sûr.
Voilà, parce que l'enjeu, en fait, nous, oui, c'est de prendre les bonnes décisions, de dire on va limiter à 2 bénévoles, mais derrière oui, il faut aussi que les bénévoles ils fassent attention à eux et aux usagers en respectant les protocoles sanitaires aussi. Donc il y a cet enjeu là et puis il y a aussi l'enjeu des nouveaux bénévoles, parce que justement je pense que avec le confinement il y a peut-être pas mal de gens qui sont, il y a eu une affluence de nouveaux bénévoles et malheureusement comme on est redescendu à 2 bénévoles, Ça veut dire que ces bénévoles, on ne va pas forcément les impliquer tout de suite. Donc, donc ça demande aussi voilà, de réfléchir à comment pas les perdre, entre guillemets, sur le long terme,
bien sûr,
en fait,
bien sûr,
les garder.
Oui, parce que là, ça a créé une espèce de mouvement de réservistes, en fait, un petit peu. Enfin, le terme est peut-être bon, est un peu martial, mais pour le coup, c'est un peu ça. Hein, parce que comme tu disais très justement, c'est que ça... Il y a eu du temps qui s'est libéré pour les gens avec le confinement, de ce que je comprends, qui ont du coup se sont peut-être décidés à franchir un pas qu'ils n'avaient peut-être pas osé franchir jusqu'à maintenant.
Ouais.
Claire ?
Dès que les grands froids arrivent, on a beaucoup,
d'accord,
beaucoup de demandes,
okay,
de bénévoles.
C'est intéressant ça.
Voilà.
Intéressant.
Là, ce qu'on a discuté à la dernière réunion bureau, Valentine qui s'occupe du planning, elle va peut-être, toutes les nouvelles demandes, si vraiment on n'a pas besoin, on va se renseigner quelle association a besoin de bénévoles et va leur passer
l'information. Ah, c'est intéressant ça, très
parce
intéressant.
Parce que le but, créer une réserve. Et elle va informer, bon là, les nouveaux bénévoles qu'on leur a dit, pour l'instant, on ne pouvait pas faire de maraude parce qu'une équipe de deux, on a besoin un peu des gens, un peu expérimentés. Il y a eu un mail d'information, elle a complété, elle a expliqué, parce qu'il y a un respect de ça, quoi.
Oui, donc ben non, ben jusque-là, ben c'est très intéressant, parce que jusque-là, du coup, la cohésion y va. C'est-à-dire, c'est ne pas hésiter à orienter les gens, si vous êtes en effectif complet, entre guillemets, l'orienter vers d'autres associations aussi qui en auraient besoin à un moment X ou Y.
Je pense qu'on a beaucoup de demandes de bénévolat l'hiver, dès qu'il fait froid, parce qu'on a des horaires, c'est le soir. Donc les gens, ouais, qui travaillent peuvent faire du bénévolat. Mmh. C'est vrai que d'autres associations de jour, ils ont besoin de bénévoles la journée.
Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Oui, du coup, ce n'est pas toujours transposable. Voilà, c'est ça.
On a toutes les tranches d'âge, étudiants, retraités. Et...
C'est vrai que là-dessus, c'est un peu... On n'est pas comme les autres associations. Beaucoup,
d'accord,
d'associations qui sont dans la précarité ont des bénévoles qui sont assez âgés. Alors qu'en fait, nous, on est vraiment, vraiment sur une tranche active. Ce qui fait que quand on a des activités Vinci en journée, que ce soit en semaine ou en week-end... On a peu de bénévoles pour faire la logistique, en fait.
D'accord. Vous avez plus d'actifs, entre guillemets, que d'autres associations qui auraient un public de bénévoles peut-être un peu plus âgé, avec plus de temps libre, parce qu'à la retraite, parce qu'en fin de carrière, ou des choses comme ça. D'accord. Très bien. Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas posée. Mmh. Mais donc 120, 140 bénévoles en moyenne. Voilà, c'est une question qu'on n'a pas posée. C'est quel est il n'y a pas de profil type, du coup, de bénévoles au Vinci.
C'est, 18 ans à Anne-Marie, elle a 82.
82.
Ah oui, d'accord, on n'est pas loin du 7 à 77 ans, là. On n'est pas loin du 7 à 77, mais il faut être majeur, du coup, puisque 18 ans, j'imagine.
Par contre, c'est vrai qu'on a très peu de bénévoles vraiment âgés, plus de 65 ans, on peut en avoir 4.
Ah oui,
d'accord,
ouais, c'est une très faible proportion, du coup, de... Très bien. Bah, du coup, je me tourne vers Mathéo, qui est le plus jeune autour de cette table. Là, du coup, en statut de jeune, je déteste ce que je suis en train de dire. C'est terrible ce que je suis en train de dire. C'est affreux. Mais en tant que personne un peu plus jeune que d'autres, elle était où l'envie de rejoindre le Vinci et le SAMU social ? Quel a été le moteur pour... Parce qu'on dit... Enfin, là, pour le coup, je me déteste d'avoir dit pour quelqu'un de jeune, oui, parce que cette stigmatisation qu'il peut y avoir de jeunes qui ne sont jamais impliqués dans rien, qui ne font jamais rien, qui ne passent leur temps sur Instagram toute la journée. Bon, bah, là, j'ai une preuve vivante devant moi que c'est complètement faux, déjà, pour commencer. Et du coup, bah, pour faire taire les détracteurs, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à aller vers le SAMU social et à vouloir t'impliquer, puisque je rappelle que tu es aujourd'hui au bureau de l'association,
oui. Je pense que c'est d'abord ce que j'ai vécu après pendant mon enfance et tout ça. Je faisais partie de petites associations, des petites équipes de projets, rien à voir, mais voilà, je pense que déjà un premier contact avec le milieu associatif. Et puis après, quand j'ai commencé mes études, j'ai fait 2 années de prépa qui étaient quand même assez chronophages, et donc c'était assez compliqué, donc j'ai pas pu m'investir à ce moment-là. Et quand je suis arrivé sur Grenoble, j'ai eu du temps pour m'investir, et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose d'utile, qui pour moi est important, en fait, et d'apporter mon aide aux autres, en fait. Et ça s'est trouvé un peu par hasard. C'est en cours d'économie, notre professeur nous a parlé des différents moyens de s'investir dans la vie associative, et dont le Vinci. Et donc, juste après, j'ai pris contact avec Eric, et puis...
C'est intéressant ça, par un professeur. Je trouve ça très très bien ça, par un professeur.
On a une convention avec l'INP, en fait.
Ah, d'accord, ah, bah, c'est super bien, ça. Ça c'est super, parce que c'est un sacré vivier de bénévoles potentiels. Très très bien, d'accord. Bah, vous voyez, hein, comme quoi, hein, les jeunes savent s'impliquer aussi. C'est le vieux con qui parle. Très bien, très bien. Anya, quelque chose à ajouter?
En fait, j'allais lui demander comment est-ce qu'il est arrivé là, mais il vient de répondre aux questions que je n'ai pas posées. Voilà, je vais me mettre dans un coin.
Mais
et
non, mais non, Anya, mais non, ne sois pas comme ça. Donc on a parlé des bénévoles, on a parlé du coup, vous aviez évoqué tout à l'heure du coup la recherche d'un nouveau local, parce que du coup il y a tout ce côté logistique de stockage, hein, les fameux bons qui arrivaient à terme et qu'il fallait dépenser. Du coup là vous êtes actuellement en recherche d'un nouveau local.
Alors on a essayé de chercher, avant le Covid, on a essayé de chercher un local.
D'accord.
Par contre on tombait sur des prix qui étaient hors catégorie, ouais. Où on n'aurait pas pu assumer à long terme. Actuellement, on essaie de voir ça avec la ville de Grenoble.
D'accord.
Donc, on a visité un local il y a 15 jours, là, mais qui ne convenait pas du tout. Mm-hmm. Et puis là, on est en attente pour voir pour un autre local. Donc, ça devrait éventuellement trouver une solution. Enfin, on devrait trouver une solution. Mais c'est vrai que là, notre local est complètement inadapté, en fait.
Oui, c'est vrai que, alors bon, même si vous ne le voyez pas, amis auditeurs, c'est vrai que c'est très chargé, il y a beaucoup de choses autour de nous. Il y a des. Oui, il y a encore une mezzanine là-haut, Claire nous montre, avec plein de cartons. Effectivement, c'est très très chargé. Parce que Louis, du coup, là vous passeriez par la ville éventuellement, pour un partenariat peut-être avec la ville, pour trouver un local plus.
Disons qu'il faut qu'on ait une pièce pour les réunions, une pièce pour le stockage.
Bien sûr.
Spécifique, une pièce pour la préparation. Et puis, à côté de ça, un parking aussi, qui soit à côté du local ou carrément maintenant au local.
Bien sûr. Voilà. Mmh. Parce que c'est intéressant, votre véhicule, il est stationné où, là, du coup?
Alors, on a un parking, les parkings EFIA, là, qui sont juste à côté.
Oui, ok, d'accord.
Il y a un abonnement.
D'accord, ok. Vous n'avez pas essayé de leur négocier un petit quelque chose?
On a eu
30%. Non, mais ça fait plaisir de l'entendre quand même. Il y a eu une petite ristourne quand même pour une mission d'intérêt général comme celle-là. C'est bien que tout le monde mette un peu la main à la patte, si ce n'est au porte-monnaie.
Et puis on a le coup de main maintenant pour négocier les tarifs.
Pas de soucis. Voilà. Et 90, ça fait 30 ans d'expérience pour ce genre de pratique. C'est toujours très très bon à prendre. Très bien. Écoutez, si dans les auditeurs, on ne sait jamais, hein, vous avez un local très grand qui ne vous sert à rien à l'heure actuelle, n'hésitez pas à contacter le SAMU social, le Vinci. Ah, Claire, oui.
Grenoble.
Sur Grenoble. Voilà. Oui, oui. C'est bien de le préciser, sur Grenoble. Avec, si possible, une petite place de parking attenante, ce serait parfait. Soyez généreux, les enfants. On va parler le grand public, celui qui n'est pas forcément bénévole, celui qui ne connaît pas forcément le Vinci. À l'heure actuelle, hors bénévolat, hors proposition de venir filer un coup de main, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider? Comment ils peuvent aider le Vinci à l'heure actuelle?
Bonne question. Bonne question.
Quelle est l'urgence, là? Aujourd'hui, quelle est l'urgence absolue?
Il n'y en a pas vraiment, parce que les problèmes ne sont pas liés à des problèmes monétaires ou des problèmes de stock ou voilà.
Nous, l'électricien, Eric.
Ah oui, si. On a des problèmes électriques dans le local.
C'est super intéressant parce que du coup, voilà, c'est systématiquement, je pose la question à séance, c'est que oui, il peut y avoir le don alimentaire, le don de couverture, le don d'argent, hein, tout simplement, mais ça peut être aussi venir simplement filer un coup de main pour de la logistique. Un électricien, par exemple, un artisan qui aurait, ou quelqu'un qui a un peu des connaissances, voilà, c'est quelque chose, ça, vous êtes preneur, quoi qu'il en soit.
C'est vrai qu'une fois, on était au local, là, et d'un coup, ça a senti un peu le brûlé. Et on a cherché d'où ça venait, et en fait c'était une prise qui était en train de brûler, il n'y avait rien de branché dessus.
D'accord.
Donc à ce moment-là on s'est intéressé un petit peu plus à ce qu'il y avait dans les boulottes.
D'accord.
Les câbles, et là on a un peu pris peur quand même.
Aïe.
Donc, voilà. Et puis vu qu'on cherche à changer de local, on a la question de savoir si on fait tout un tas de travaux, alors que quand l'association est arrivée ici, il n'y avait pas l'électricité, ça avait déjà été installé à l'époque.
D'accord.
C'est vrai qu'un électricien, là, ce serait la bienvenue.
Ce
serait bien parce que préparer une maraude en branchant, on doit préparer de l'eau chaude,
un
quart de café et décongeler du pain. Alors on fait attention, on ne branche qu'une cafetière avec. Ça complique la logistique.
Non, mais voilà, c'est intéressant de le savoir. C'est toute bonne volonté qui serait prêt à venir filer un petit coup de main de ce côté-là. Ça, c'est toujours la bienvenue, j'imagine, pour surtout dans, voilà, dans ce local surchargé, où ce serait quand même bien dommage que tout, à cause d'un court-circuit, se mette à brûler, parce que bah, tout est stocké là, de toute façon, j'imagine, tout ce qui appartient à l'association.
On a encore deux petits locaux à côté. Il y en a un, d'accord, c'est pour les couvertures, et l'autre, c'est pour le reste de l'alimentaire et de l'hygiène.
D'accord, ok, très bien. Très bien, très bien. Anya, quelque chose, toujours pas? J'anticipe.
Mais oui, mais à chaque fois, je me fais couper l'herbe sous le pied.
Impose-toi, Anya, n'aie pas peur.
J'écoute très attentivement.
Très bien, on a dépassé la demi-heure d'interview, à ce que je vois, on a été déjà bien complet. Est-ce qu'il y a quand même des choses auxquelles moi, j'aurais peut-être pas forcément pensé, ou Anya non plus? Voilà, là, j'ai envie de dire un peu, bah, micro ouvert, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire à nos auditeurs, peut-être soit de l'explication sur le déroulement des choses, des revendications, des demandes ou simplement des observations. Le micro vous est ouvert, allez-y.
Bon, je voulais simplement dire que l'association n'avait pas besoin de vêtements, ça nous demande beaucoup de logistique, à part des vestes chaudes, gants et chaussettes. Je remercie les chiffonnières de Villard-de-Lans. On a une bénévole qui habite sur le plateau. Et les chiffonnières, nous, gardent les couvertures d'UV et gants et bonnets.
Oui, donc les vêtements chauds d'hiver, vraiment. Là,
quand la bénévole descend sur le plateau, ici, elle nous le dépose. Parce que les couvertures, c'est quand même... on en a besoin toute l'année.
Oui, bien sûr. Ouais.
Voilà. Mais dans la trappe, des vêtements d'été ou des chemises de nuit, on n'en a pas besoin.
Oui, bien sûr.
Moi, en plus, avec la crise sanitaire, les vêtements, on fait au compte-goutte quoi, pour la contamination. On a vestes chaudes en cas d'urgence. Comme il disait Eric, on est là en cas d'urgence.
Ouais.
On a quelque chose de chaud, mais bon, on fait pas les pantalons, les t-shirts.
Après, c'est sûr que le soir, à 10h, 11h, en hiver, quand on tombe sur quelqu'un qui est en short et en claquette, bon, bah, faut lui trouver des vêtements. Donc on a toujours un pantalon ou deux qui traînent ici, quoi. Ce qui fait que vraiment sur les gros cas d'urgence, on peut répondre à la demande.
Ouais.
Et sinon, on limite vraiment tout ce qui est veste. Voilà.
D'accord. Très bien.
On n'est que des bénévoles et de tout trier.
Oui, ça vous rajoute du travail, en fait. En soi, si on vous fait des dons inadaptés. Donc, mais ça, les gens n'ont pas forcément conscience. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'en parler, de prioriser sur les besoins d'urgence réels. Et pas, enfin, des fois, ça part toujours d'une bonne volonté de faire des dons. Mais c'est vrai que.
Même, je parlerai pour les autres associations, quand vous faites des dons, que vous pensez que ça peut servir à des gens, faites le tri déjà chez vous.
Voilà.
Parce que les autres associations, il n'y a pas que nous qui sommes bénévoles. Il y a le Secours Populaire, il y a Resto du Cœur. Toutes les associations, il y a beaucoup de bénévoles. Enfin. C'est grâce à ces bénévoles. Et c'est vrai que si vous voyez un vêtement taché, allez plutôt à Emmaüs qui va le recycler pas le revendre. Mais si vous voulez Resto du Cœur, il faut peut-être mieux donner des affaires en bon état, Croix-Rouge aussi. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Il faut toujours penser que derrière, c'est des bénévoles aussi qui prennent du temps.
Ah, oui. Ah, oui.
Et que nous, chez nous, quand on fait du tri, on a du temps aussi, donc par respect.
Non mais je trouve ça intéressant de le souligner, c'est-à-dire on a tendance à toujours pointer du doigt, on aurait besoin de ça, mais c'est bien aussi de faire le parallèle en expliquant toute la logistique que ça va après coup demander. C'est-à-dire, non, ça on n'en a pas besoin, on n'en aura pas usage, et en plus ça va nous mobiliser du temps et de l'énergie pour rien du tout. Je trouve que c'est au contraire très intéressant de le souligner, quoi. Donc,
après c'est vrai que des grosses structures auront le personnel pour trier derrière,
bien sûr.
Mais voilà, nous c'est déjà qu'on est des bénévoles, si on plus on doit, enfin, quand on a des affaires dont on ne se sert pas, on évite de jeter et on redistribue aux autres associations qui seront susceptibles justement de distribuer ça.
Bien sûr.
Ce qui fait que voilà, c'est du temps, des déplacements, c'est beaucoup.
C'est ça. Ça rajoute un intermédiaire là où ça pourrait être fait en direct entre le public et l'association ou l'organisme. Voilà, vers la bonne structure. Tout à fait. Hein. Non, mais c'est important parce que comme beaucoup, vous n'avez pas de temps à perdre parce que il y a déjà beaucoup de choses à faire de toute évidence. Donc je trouve ça intéressant de le souligner. Est-ce que vous aviez d'autres choses dont vous aimeriez parler, Mathéo, toi, je ne sais pas si...
Moi, j'aurais plus parlé de l'aspect, de ce que ça m'a fait découvrir.
Oui, bien sûr.
Des personnes que j'ai rencontrées, à la fois dans l'association, on rencontre des gens vraiment super humainement, et de tous horizons, et aussi dans la rue, parce que, avant, on côtoie pas forcément. Puis moi, je viens d'un milieu plutôt rural, donc on n'a pas forcément l'habitude de voir de ce type de personnes. Et on peut avoir des a priori, et sûrement beaucoup des auditeurs ont certains a priori, ou sans avoir d'a priori, on peut être gêné ou avoir un peu peur d'aller vers les gens. Et en fait, oui, bah, grâce à ces maraudes et voir du monde, bah, ça m'a ouvert à ces gens. Et vraiment, j'ai eu... je suis vraiment très, à chaque fois, très heureux de les retrouver, de pouvoir parler avec eux. Et aussi, voilà, je voudrais passer un message, c'est que ben, on a pas mal souvent de gens qui appellent le 115 pour les personnes qu'ils rencontrent, ou des gens où c'est simplement leur voisin qui s'est fait mettre dehors, et donc ils appellent pour lui et tout ça. Et donc cette solidarité qu'il y a un petit peu aussi entre les gens, ben, je pense que c'est très important. Et faut pas que les gens ils se démobilisent, parce que grâce à ça, nous après on peut aller voir les gens et donc voilà, ne serait-ce que voilà, dire un bonjour ou parler avec quelqu'un qu'on croise, ben, ça lui fera plaisir aussi, parce que c'est des gens des fois qui voient pas beaucoup de monde dans la journée. Et donc, si les gens ils peuvent rester
instaurer du lien,
vous pouvez instaurer du lien.
Instaurer du lien en toutes circonstances, ouais. Toujours. Un bonjour ne coûte pas bien grand-chose, et puis dans des cas un peu extrêmes, ça peut sauver la vie de quelqu'un, tout simplement, parce que ça engage un dialogue, et du coup, c'est important de continuer à le faire. Ben, merci Mathéo, c'est une jolie parole, j'aime beaucoup.
Pour rebondir sur ce que dit Mathéo, c'est vrai aussi qu'en ce moment, les gens à la rue, alors déjà dans le premier confinement, l'association s'était mise en retrait pendant 15 jours, mais avec Claire, on a continué les maraudes pendant ces 15 jours-là, justement pour voir la température de la rue. Et on s'est retrouvé face à des usagers qui, en fait, n'avaient plus accès au téléphone, qui n'avaient plus accès à la manche, tout simplement, parce qu'il n'y avait plus personne dans la rue. Et quand ils demandaient à quelqu'un si la personne avait un téléphone pour appeler le 115, ben, la personne ne prêtait pas son téléphone. Donc il faut vraiment que les auditeurs réalisent que les gens dans la rue, actuellement, sont très seuls. Et ils sont un peu largués à eux-mêmes, hein, en dehors des associations.
Plus que jamais en période de confinement, hein, bien évidemment. C'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé, mais le simple fait de pas avoir accès à la manche, quand bah, pour gagner 3 francs 6 sous, c'est le seul moyen qu'on a quand on est à la rue. C'est vrai qu'un confinement, bah, ça va pas forcément dans le bon sens pour ce genre de choses-là.
C'est une tendance qui est en train de revenir là.
Ouais, c'est en train de revenir du coup. Ouais, forcément.
Même croiser une personne qui se demandait qu'est-ce qui se passait. Qui ne comprenait pas pourquoi
qui n'était pas informé, oui, bien sûr.
L'information.
Bien sûr. Ouais.
Et puis c'est vrai qu'en ce moment, en plus, au niveau des associations, il y a pas mal de mouvements. Il y a des associations qui ferment, d'autres qui réouvrent, etc. Du coup, au niveau de la distribution alimentaire, par exemple, il y a beaucoup de changements, en fait. Il faut vraiment se maintenir à jour au niveau des informations, et c'est assez difficile.
Et bah alors, ce que je veux dire, ce qui ne doit pas être facile, parce que comme en ce moment, ça a tendance à changer toutes les 48 heures, ça ne doit pas être facile. Claire, vous voulez dire quelque chose ? Non ?
Il y a un super site que je conseille à tous les usagers, ouais. Ou même à des gens que je connais, c'est Solidarité Grenoble.
Ouais.
C'est le site de la ville.
D'accord, ouais, mais c'est important.
Sur Facebook, sur le web, ils sont assez... nous, on s'en sert beaucoup.
Ouais.
Et qui donnent beaucoup d'informations.
D'accord.
Même pour les gens qui ont un travail ou en ce moment avec les personnes de confinement, mais il est assez.
C'est vrai que le CCAS en fait a vraiment mis l'accent là-dessus, c'est de maintenir le site vraiment à jour. Dès qu'ils ont une info, tout de suite le site est mis à jour.
Okay.
Donc c'est vraiment une bonne source d'information, que ce soit pour les usagers ou les associations.
Ah non, mais c'est très important Donc c'est Solidarité Grenoble, Solidarité au pluriel, si je dis pas de bêtises, non ? Il me semble que c'est... De toute façon, on
je crois que c'est au singulier.
C'est au singulier, je sais pas pourquoi je le voyais au pluriel.
Non, au pluriel.
Ah voilà, il me semblait bien. Je suis encore à jour, c'est bien. Pour un vieux modèle, je suis encore à jour, c'est bien. Donc Solidarité Grenoble, non mais toute blague à part, du coup, et c'est un centre de ressources unifié qui est vraiment du coup sur un seul endroit où toute l'information est mise à jour très, très régulièrement à ce sujet. Donc c'est très important, mais ne serait-ce que même pour le Kidam, aller simplement prendre de l'information, c'est toujours important d'avoir ce genre de lien dans ses favoris. Voilà, je pense que c'est important.
Ça renseigne aussi sur les épiceries solidaires,
ça renseigne sur toute la précarité.
En fait. Vraiment, ouais. C'est bien, encore une fois, la cohésion et l'unité, ben, c'est un domaine dans lequel ça reste très très important. Donc, parfait.
Principal.
On va bientôt arriver au terme de cette interview. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos auditeurs, quelque chose à leur adresser ou à nous adresser à nous, ou un sujet qu'on n'aurait peut-être pas évoqué pour terminer éventuellement?
Moi, je tenais quand même à préciser que la ville de Grenoble a quand même été très présente pendant le premier confinement et nous a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés. Mmh. Et ça, c'était un point qui vraiment a été utile. Tout comme il y a une collaboration avec les autres associations qui s'est mise en place, ouais, avec les Restos du Cœur, avec Nicodème, avec Vieux Temple. Et ça, c'est vraiment un truc qui n'était pas avant. Et ça a changé pas mal de choses. Et c'est vraiment une très, très, très bonne chose.
Ça a produit du bien, du coup, malgré tout. Ça fait plaisir à entendre, parce qu'on n'est pas dans une période un petit peu morose à l'heure actuelle, hein, au sens très très large du terme. C'est quand même toujours encourageant d'entendre que pour le côté solidaire et social, il y a quand même eu une certaine cohésion, et du coup que la ville de Grenoble ait mis la main à la pâte pour de vrai, du coup, les mains dans le cambouis, c'est plutôt une bonne chose. Claire, oui.
Est-ce que nous, on ne veut pas tirer la couverture, on ne veut pas dire on a fait ci, on a fait ça. On s'en fout un peu, nous, les bébés. Enfin,
Non, mais je comprends.
Nous, les usagers, on les oriente beaucoup dans les associations de jour. Donc, s'il y a une cohésion, c'est encore mieux pour les usagers, pour les gens de la rue.
De toute façon.
Je voulais juste rajouter un truc, dire aux auditeurs que si quelqu'un de la rue dit « Mais si, j'appelle le 115, mais il n'y a rien », c'est vrai aussi. Les hommes seuls n'ont pas de logement, mais pas parce qu'ils appellent le 115 qu'ils auront un logement.
Oui, bien sûr.
Et des fois, et c'est vrai aussi que leurs batteries, des fois, sont usées par 2-3 heures d'attente quand ils appellent le 115, parce que le 115, je ne critique pas le 115, il est submergé d'appels.
Oui, bien sûr, j'imagine.
Et donc, c'est nous, les particuliers, c'est aux usagers, de dire, appelez le 115, ils vont... Non, oui, mais le 115, c'est de la patience, il faut les avoir. Il n'y aura pas une solution à chaque fois au bout. Mais c'est important que les gens de la rue se signalent au 115.
Ouais.
Qu'ils rentrent dans la liste.
Bien sûr.
Qu'ils se signalent régulièrement.
Et c'est intéressant, ça, comme on peut se signaler soi-même comme étant à la rue auprès du 115. Du coup, il faut. Oui, mais je ne suis pas sûr que tout le monde le sache.
Le 115
ça,
gère les Nous, on ne gère pas du tout les hébergements.
Oui, bien sûr.
C'est le 115 qui va. Pardon, s'ils voient que la personne. Nous, on fait des remontées. On dit cette personne, elle va de plus en plus mal. C'est pas pour ça qu'elle a peut-être un logement, mais c'est toujours des infos qu'on peut donner pour
C'est vrai qu'une personne qui est dans la précarité, de façon générale, pas simplement en termes de logement, il faut absolument qu'elle se mette en rapport avec le 115, parce que le 115 a des solutions, pas forcément au niveau logement, mais en tout cas, le 115 dispose de toutes les informations. Donc pour faire de l'orientation, soit on nous voit nous, soit on voit la Croix-Rouge, par exemple, ou les accueils de jour. Mais vraiment, un coup de téléphone au 115, ça peut déverrouiller quand même des situations.
D'accord.
Et ça, c'est pas à négliger.
Non, c'est primordial.
Ça centralise, en fait. C'est pour se recenser et rentrer dans une boucle pour avoir des réponses ensuite.
Voilà.
Très bien.
Il y a des statistiques comme ça. S'ils appellent bien le 115, on voit que les chiffres sont...
Oui, parce que ça, c'est comme les demandeurs d'emploi. Si on n'y est plus enregistré, on fait plus partie des listes de demandeurs d'emploi, même si on l'est tout autant, mais pas simplement parce qu'on est sorti on n'a plus son petit numéro, donc on n'a plus la petite étiquette. Donc c'est la même chose pour la précarité et la vie dans la rue, quelle qu'en soit la raison, parce qu'au final, on s'en fiche, mais il faut se signaler. Parce que sinon, on n'est pas enregistré comme tel, quoi. On n'est pas reconnu. Enregistré, j'aime pas le terme, plutôt reconnu comme tel, en tout cas.
C'est vrai que tout à l'heure, on parlait du plan hivernal. Mm-hmm. Le plan hivernal, en fait, n'a pas été arrêté à cause du Covid.
D'accord.
Cette année. Ce qui fait qu'actuellement, il y a déjà à l'heure actuelle 350 places qui sont occupées dans le plan hivernal.
D'accord.
Donc ils ont essayé de créer 300 places supplémentaires, mais au final, il reste donc 300-350 places à pourvoir.
D'accord.
Et que pendant tout l'hiver, là, cette année, on risque fortement d'avoir des gens, beaucoup, beaucoup de gens à la rue. Mmh. Il faudra voir, justement, au niveau du préfet, s'il autorise l'ouverture de gymnase.
Mmh. Ouais.
Voilà, parce que durant le dernier été, quand on avait eu canicule, moi, j'avais fait, au mois de juillet, quatre maraudes où j'ai appelé les pompiers. Ouais. Parce que, voilà, il y avait des problèmes de déshydratation sévère chez les enfants, etc. Donc, je pense quand même que ce passage-là a servi à mieux prendre en charge les usagers. Raison pour laquelle, notamment cette année, ils ont pas fermé le plan hivernal.
Oui.
Et du coup, il faut aussi que les auditeurs soient conscients que c'est pas parce qu'il y a un plan hivernal et un 115 qu'il y a automatiquement des solutions.
Oui,
oui bien sûr.
Vraiment,
non, mais c'est très important de le rappeler. Hein. Non, mais c'est vraiment très très important de le rappeler. Tout à fait.
D'autant plus que nous, notre pic de fréquentation, en fait, c'est absolument pas en hiver, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. C'est surtout en été. En été, on est monté au mois d'août jusqu'à 1200 personnes au total rencontrées sur un mois, ce qui fait des maraudes assez énormes. On est monté jusqu'à 85 personnes en maraude au mois d'août. Donc quand vous faites une maraude à 85 personnes, on ne peut plus appeler ça de la maraude.
Oui.
On appelle ça du débit et on consacre 30 secondes à une personne. Et alors là, l'aller vers, il n'y est pas du tout. L'écoute, il n'y est pas du tout. On résume ça à simplement, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il n'y a pas un problème. S'il n'y a pas de problème, à ce moment-là, on passait à autre chose, enfin, on passait à une autre personne. Et ça, depuis, on a quand même changé là-dessus, parce qu'on s'est rendu compte que ben, faire une maraude, c'est pas faire du débit. On ne peut pas, il y a un moment, il y a aussi une limite là-dessus. Et les gens qui sont seuls à la rue, il faut vraiment se concentrer sur eux et leur faire sentir qu'on est là,
oui.
Voilà, qu'on n'est pas seulement de passage. Et ça, c'est quand même, à un moment, ça nous a vraiment causé une grosse difficulté.
Ouais, j'imagine.
C'est pas parce qu'il fait chaud l'été qu'on dort mieux. Voilà, c'est pas parce qu'il fait pas froid qu'on dort mieux, qu'on est mieux. Une femme seule avec son enfant, on a eu des usagères, elle dormait dans les petites cabanes de jardin, là, dans les jeux d'enfants. Là. Mm-hmm. Toutes les trois heures, elle se réveillait ou elle réveillait son fils pour aller changer d'endroit. Un homme seul, eh ben, il est toujours avec les oreilles, enfin, même s'il fait, il fait chaud. La précarité est aussi dure qu'en été, plus dure que...
La précarité est aussi, voire plus dure, et puis surtout la couverture médiatique est inférieure en été.
Oui, oui.
Ouais. C'est vrai qu'en été...
On en a moins en été.
Comment ?
On a besoin plus en été qu'en hiver.
Oui, mais c'est, je pense que c'est ce qui a fait qu'il y a eu énormément de communication sur tout ce qui est plan hivernal à chaque fois, qui fait que vous avez peut-être plus de bénévoles quand arrive l'hiver, alors qu'en fait, vous en avez aussi besoin l'été. Et c'est lié à la communication de ces dernières années, je pense.
Et après, c'est vrai aussi que...
On a toujours eu plus de bénévoles l'hiver, le froid, mais les gens, c'est normal. Ouais. C'est un peu normal.
Mais c'est vrai que de toute façon, les situations critiques, en fait, c'est un peu tout au long de l'année. Et quand je parle de situations critiques, c'est quand même des situations assez inquiétantes. Quand on a une dame qui est avec sa petite fille qui est à la rue et que la dame a été violée, que du coup, quand elle passe la nuit dehors, elle se couche sous une voiture avec sa fille. On a eu des situations comme ça, par crainte en fait. Voilà. Mmh. Ou alors, c'est vrai que des situations vraiment, vraiment chaudes, en fait, entre guillemets, on en a pas mal. Hein.
Et les hommes seuls aussi. Hein.
Et puis les hommes seuls, ça c'est vraiment un signal d'alarme qu'on tire. C'est que les hommes seuls, on en a beaucoup en fait qui sont à la rue depuis 4-5 ans, qui n'ont jamais été pris en charge, auxquels jamais il y a eu de solution de réelle et concrète de proposer. Il y en a un auquel je pense, il a eu une fois une visite du CCAS des Chirolles, terminé, ça s'est arrêté là. Il a eu une fois une visite de l'équipe mobile psychiatrique. Et pareil, ils sont passés le voir le jour où il fallait pas, où il avait bu, etc. Les a proprement renvoyé chez eux, entre guillemets. Et du coup, depuis, plus rien. Il est resté à la rue pendant presque 5 ans.
D'accord.
Donc c'est quand même des situations qui ne sont pas bien normales et qu'on a tendance à... Enfin, que les autorités administratives ont tendance à oublier des fois.
C'est l'accompagnement. En fait, il y a des usagers qui auraient besoin d'un accompagnement à long terme. C'est pas parce qu'il y a des belles structures qui sont mises en place chez soi d'abord. Mais c'est pas parce qu'on donne un logement ou à manger ou des vêtements. Voilà. Ce qui manque, c'est au niveau psy, c'est un accompagnement pendant un an, 2 ans, 3 ans. C'est ça qui manque.
Ça, c'est bien. Alors, je ne peux être que. Je peux être que d'accord avec ça, c'est que c'est toujours là. Oui, non, mais c'est pas qu'à Grenoble, ça, c'est un mouvement qui est, je dirais, national, mais même international, parce que c'est la question. La question a commencé à être posée sur les sorties de désintoxication, etc. Où, oui, alors l'usager, le patient sort, la patiente sort. Ah oui, ils sont désintoxiqués, sauf que comme derrière, il n'y a absolument aucun accompagnement, bah, au premier troquet du coin ou à la première occasion de se piquer. Je grossis, mais c'est volontaire, et ben ça replonge immédiatement et on a vite fait de les pointer du doigt en disant oh là là ils ont aucune volonté, oui mais enfin tout ça on est dans le domaine du psy et que c'est quelque chose, ça fait... j'ai eu connu suffisamment de psychologues qui travaillaient sur le sujet dans mon entourage il y a quelques années et qui tiraient la sonnette d'alarme depuis des années en disant mais le boulot qu'on aurait à faire là-dedans et pour lequel on n'a absolument aucune ressource ni aucune volonté parce que bah, voilà, les autorités administratives, comme vous le disiez, sont très dans le mécanique et dans le robotique, vont avoir tendance à laisser l'humain un petit peu de côté et là où il faudrait un accompagnement et personnalisé en plus, parce que c'est en plus ça la difficulté, c'est que chaque personne est différente, chaque cas, chaque histoire est différente et ça nécessite un degré d'adaptation que même les travailleurs sociaux ne peuvent plus suivre de toute façon. Donc ça pose beaucoup plus de, ça pose encore plus de questions, quoi. Voilà, en tout cas c'est des enjeux sur lesquels moi, j'aimerais bien que les administrations, justement, travaillent, se mettent à travailler vraiment dessus.
Ça serait le rêve.
Oui, oui, ben genre, ben, ayons de pieux vœux, n'est-ce pas, ma foi. Ça coûte rien de le dire et de le formaliser, voilà.
Ben, bon. Au contraire, il faut, je pense qu'il faut continuer à en parler, il faut continuer à alerter là-dessus. Et
bien sûr.
Comme ça. Enfin, c'est la seule solution qu'on a aujourd'hui encore pour se faire entendre et pour signaler ce problème-là, en fait.
Donc à l'heure actuelle, c'est vrai que l'accent est énormément mis sur l'alimentaire.
Oui.
Et qu'à côté de ça, il n'y a pas assez de moyens pour l'accompagnement.
Oui.
La personne dont je parlais, là, l'homme seul qui est à la rue depuis plus de 5 ans, bon, il a 20 ans d'alcoolisme derrière lui. Et là, il y a quelques temps, ils l'ont envoyé faire une cure désintoxication. Et en fait, au bout de, pour la première fois, il avait déjà fait 3 ou 4 cures, et pour la première fois, la cure marchait.
D'accord.
Le matin, il ne pensait pas à l'alcool et il passait sa journée sans penser à l'alcool.
Mm-hmm.
Au bout de 3 semaines, ils lui ont dit bon, bah, maintenant, dehors. Ouais. Du jour au lendemain. Et du coup, bah, lui, quand il est sorti, en plus, il n'a pas eu de chance, il subit un contrôle du SPIP. Et ce jour-là, le SPIP l'a appelé.
Et le SPIP, est-ce qu'on peut juste définir le SPIP ?
Le service de police qui assure le suivi quand il y a eu un problème.
D'accord, ok. Très bien.
Voilà, et donc c'était une erreur de leur part, en fait. Et lui, il est passé au SPIP, et quand il est sorti du SPIP, il y avait un lit de leur face. Il a été acheté 2 bouteilles de rosé. Terminé.
Voilà. Voilà, une histoire dramatique parmi tant d'autres, malheureusement. C'est. Bon, voilà. Très bien. Bah écoutez, on a bien fait le tour, je pense. On va quand même rappeler bah où est-ce qu'on peut vous joindre, à droite et à gauche, que ce soit sur les réseaux sociaux, site internet, numéro de téléphone. Comment est-ce qu'on trouve le SAMU social ?
Alors, on a un site internet, donc c'est samusocialgrenoble.fr. On a un compte Facebook.
Oui.
Voilà, l'adresse mail de l'association, c'est associationvinci, tout attaché, @gmail.com. Et puis on a un onglet contact. Ouais, mais on a un onglet contact hein, sur la page du site internet.
Donc, et puis voilà, c'est ce que disait Claire tout à l'heure sur le site internet, il y a de toute façon moyen. De toute façon, hein, on est en 2020, et puis vous êtes confinés, donc vous n'avez que ça à faire d'aller sur Google, bien évidemment. Vous tapez SAMU Social Grenoble, et puis vous trouverez tout ce qu'il faut, bien évidemment. On relaiera, bien évidemment, sur notre page Facebook, à nous, de RKS, ben, l'intégralité de tous ces liens, quand on publiera le podcast de cette émission. Éric, Mathéo, Claire, il me reste qu'à vous remercier.
Merci
de,
à vous.
De nous avoir accordé du temps, d'avoir évoqué toutes ces questions aussi passionnantes qu'elles peuvent être dramatiques, mais en tout cas toujours, toujours passionnantes. On vous souhaite très très bon courage pour la suite. Voilà, et puis on encourage.
Courage aux usagers.
Et courage aux usagers aussi, bien évidemment. On encourage, comme d'habitude, tous nos éditeurs à être curieux et à se renseigner, à la pêche aux infos, toujours. Sur RKS. Soyez experts de rien, mais curieux de tout, comme on aime le dire. Voilà. N'est-ce pas? Je vous remercie beaucoup. On remercie le SAMU Social de nous avoir, le Vinci, de nous avoir accueillis dans ses locaux. Et nous vous souhaitons à tous une bonne continuation.